Notre-Dame était blanche.
Les archers s'étaient formés en cordon pour maintenir la foule en deçà de l'étroit parvis. À toutes les fenêtres, des têtes curieuses se pressaient. La brume s'était levée et un pâle soleil éclairait les pierres blanches de Notre-Dame de Paris. Car la cathédrale n'était achevée que depuis 70 ans et l'on travaillait sans cesse à l'embellir. Elle avait encore l'éclat du neuf et la lumière faisait ressortir l'arc des ogives. La dentelle de la rosace centrale accentuait le fourmillement des statues au-dessus des porches. On avait repoussé contre les maisons les marchands de poulets qui chaque matin vendaient devant l'église. Le criaillement d'une volaille étouffant dans son cageot déchirait le silence. Cet anormal silence qui venait de surprendre le comte d'Artois à la sortie de la galerie Mercière. Le capitaine Alain de Pareil se tenait immobile devant ses soldats. En haut des marches qui montaient du parvis, les 4 dignitaires du temple étaient debout, dos à la foule et face au tribunal ecclésiastique, installés entre les vantaux ouverts du grand portail. Évêques, chanoines, clercs siégeaient alignés sur 2 rangs. La curiosité de la foule se portait principalement sur les 3 cardinaux spécialement envoyés par le pape pour bien signifier que la sentence serait sans appel ni recours devant le Saint-Siège, ainsi que sur Mgr Jean de Marigny, le jeune archevêque de Sens, frère du recteur du royaume, et qui, avec le grand inquisiteur de France, avait conduit toute l'affaire. Les robes brunes ou blanches d'une 30aine de moines apparaissaient derrière les membres du tribunal. Seul laïc de cette assemblée, le prévôt de Paris, Jean de Ploy-Bouche, personnage d'une 50aine d'années, courtot, au visage contracté, paraissait peu satisfait de se trouver là. Il représentait le pouvoir royal et était chargé du maintien de l'ordre. Ses yeux allaient de la foule au capitaine des archers et du capitaine à l'archevêque de Sens. Le faible soleil jouait sur les mitres, les crosses, la pourpre des robes cardinalices, l'amarante des capes épiscopales, l'hermine des camails, l'or des croix pectorales, l'acier des cottes de mailles, des casques et des armes. Ces scintillements, ces couleurs, cet éclat rendaient plus violent le contraste avec les accusés pour lesquels tout ce grand appareil avait été commandé. Les 4 vieux templiers guenilleux, serrés les uns contre les autres, et dont le groupe semblait sculpté dans la cendre. Mgr Arnaud d'Auche, cardinal d'Albano, premier légat, lisait debout les attendus du jugement. Il le faisait avec lenteur et emphase, savourant sa propre voix, satisfait de lui-même et de se donner en spectacle devant un auditoire populaire. Par instants, il jouait à l'homme horrifié par l'énormité des crimes qu'il avait à énoncer. Puis il reprenait une majesté onctueuse pour relater un nouveau grief, un nouveau forfait. « Entendu les frères Géraud du Passage et Jean de Cugny, qui affirment, après maintes autres, qu'on leur fit force à leur réception dans l'ordre de cracher sur la croix. Pour ce, leur dit-on que c'était un morceau de bois et que le vrai Dieu était au ciel. » Entendu le frère Guy Dauphin, à qui il fut enjoint, si l'un de ses frères supérieurs était tourmenté par la chair et se voulait satisfaire sur lui, de consentir à tout ce qui lui serait demandé. Entendu le grand maître Jacques de Molay, qui, sous la question, a reconnu et avoué. La foule devait tendre l'oreille pour saisir les mots déformés par un débit emphatique. Le légat en faisait trop et il était trop long. Le peuple commençait à s'impatienter. À la relation des accusations, des faux témoignages, des aveux exhortés, Jacques de Molay murmurait pour lui-même « Mensonge, mensonge, mensonge !»